tout de suite démarrer le dossier de cette émission, c'est-à-dire repartir dans le XXe siècle avec, en compagnie de Daniel Ben Saïd, autour donc de 13 dates qu'on a choisies. La semaine dernière, on l'a entendu parler donc de 1917 et la Révolution russe, c'est également du 15 janvier 1919 avec l'assassinat de Karl Liebknecht et de Rosa Luxembourg, et 1936 et la guerre d'Espagne. Donc aujourd'hui on poursuit donc avec tout d'abord le quatrième épisode, le 8 mai 1945 et la libération.
Sortir de la guerre, donc le 8 mai 1945, donc après les horreurs générées par les régimes fascistes, notamment le génocide des juifs par les nazis, s'ouvre une période en fait de recomposition. D'une part, l'instauration de l'État-providence au sein des pays capitalistes occidentaux, la constitution du bloc soviétique à l'est de l'Europe sous la botte de Staline, et des aspirations en 1945 précisément considérables parmi la classe ouvrière, où les idées progressistes, l'importance des partis communistes n'ont jamais peut-être été aussi forts dans le siècle. Donc ma question est en fait très simple: qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des occasions manquées? Est-ce qu'il y a quel type de recomposition se met en place?
Alors c'est un grand débat. La première chose, peut-être, toujours j'aime bien partir de la littérature. Je crois que Stalingrad est déjà finalement un résumé des problèmes que pose la restauration d'un certain ordre capitaliste négocié, ou de cette espèce de pacte que résume le pacte de Yalta ou les pactes de Yalta et Potsdam, de partage du monde de l'après-guerre. Le livre de Vassili Grossman, Vie et destin, montre bien comment dans Stalingrad, dans la bataille de Stalingrad, se manifestait une vitalité possible de la société soviétique, y compris l'espoir d'ailleurs chez des gens qui n'étaient pas forcément des oppositionnels mais critiques, que l'initiative qu'on leur avait demandée dans la guerre contre l'occupation allemande allait déboucher aussi sur, peut-être ils n'avaient pas les idées claires, mais sur une forme de société plus ouverte, plus démocratique, etc. Et il y a cette phrase terrible dans le livre de Grossman, si je me souviens bien, qui est de dire: mais ils avaient sous-estimé quelque chose, c'est qu'on ne demande pas de compte aux vainqueurs. Et là, paradoxalement, alors que le pronostic ou l'espoir de gens comme Trotsky ou plus généralement des oppositionnels de gauche avant la guerre, c'était un scénario comparable à la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que un régime bureaucratique comme le régime soviétique ne survivrait pas à l'épreuve de la guerre, et que la seconde après-guerre mondiale serait une situation révolutionnaire aussi ouverte, avec une redistribution des forces et des cartes comme on avait connu la première. Et d'une certaine manière, la position de Trotsky sur la création d'une petite internationale, c'est aussi, dans des conditions différentes, mais c'est aussi un remake de Zimmerwald, de Quintal, etc. Il faut organiser la petite cohorte internationaliste avant d'entrer dans la guerre pour avoir l'espoir d'en sortir avec quelque chose et pour faire face aux occasions qui ne manqueront pas de se produire. Alors, ça, c'est pas passé, d'une part parce que le régime stalinien est sorti légitimé, paradoxalement, de sa victoire militaire, avec toute l'épopée. Il ne faut pas croire que c'était seulement en Union soviétique une mise en scène, mais la religiosité, moi je suis à la limite du point de vue là, générationnel, mais la religiosité autour de l'Union soviétique dans les années 50 en France... Quand un coureur soviétique comme Vladimir Kouts gagnait 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques, ou Zatopek, etc., et le premier Spoutnik, bon, mais On a du mal à imaginer aujourd'hui, mais que les gens croyaient, ils ont vaincu le nazisme, et voilà, et puis on ne prenait pas, on ne considérait pas ridicule les colcosiennes au front radieux, quand passent les cigognes, etc., etc. Donc bon, il y avait ce relativement à ça, vous avez ça dans un film qui n'est pas un bon film d'ailleurs, Rouge Baiser, les Banylons et le Coca-Cola, c'était la culture américaine, donc il fallait boycotter Coca-Cola. Bon, pourquoi pas, mais c'était quand même une vision très manichéenne du monde. Et, mais tout ça venait quand même de l'image propagée, d'une part évidemment par, autour du symbole Stalingrad, et puis par la suite par l'expansion de ce qu'on a appelé le glacis soviétique, qui pouvait paraître comme une extension d'une expérience socialiste, hein, ou passée pour telle à l'époque, bien que les éléments d'alerte étaient quand même déjà là. La crise avec la Yougoslavie a commencé très tôt, en 48-49. Les procès des anciens brigadistes, justement, en Espagne, en Tchécoslovaquie ou en Hongrie, sont venus très, très vite. Enfin, moins de 8 ans après la guerre. Mais donc, c'est contrairement à l'espérance d'une nouvelle période révolutionnaire, c'est au contraire une période de stabilisation négociée à deux grands partenaires ou plusieurs, mais enfin, fondamentalement, les États-Unis, l'Angleterre d'un côté et la direction stalinienne de l'autre, et qui, chacun, établit une discipline dans ses propres rangs. De désarmement. Dans l'affaire espagnole, il y a eu des guérillas, y compris d'ailleurs de militants communistes, qui ont duré jusqu'après la guerre en pensant que les dictatures ne survivraient pas non plus à la guerre et que donc on allait jouer la revanche de la guerre civile dès 1945. Bon, et ça a été là aussi ramené, rappelé à l'ordre, rentré dans le rang, etc. Le désarmement de la résistance grecque est peut-être le cas le plus criant des conséquences de ce pacte. C'est en ça que la tragédie grecque me paraît... Il y a un seul bouquin, à ma connaissance, il y en a sûrement d'autres, je ne suis pas spécialiste, mais en français, il n'y a que le bouquin de Dominique Eudes, de Les Capitanios, sur ça. Mais c'est autant, il y a beaucoup de littérature sur la guerre civile espagnole, l'affaire grecque est méconnue, elle est pourtant l'illustration. Ou alors on l'a dans les romans de Tsirkas, Cité à la dérive, etc. Bon, mais et le cas qui a échappé à ça, on a par exemple une opposition entre les accords de Varkiza, qui sont les accords de désarmement de la résistance grecque, et les accords de Chongqing en Chine, qui étaient censés être l'équivalent, mais où là, Mao Tse-tung, si on lit après quelques quoi qu'on en pense par la suite, mais dit non, mais les armes du peuple sont les armes du peuple, on ne les rend pas, etc., etc., et qui essaie de louvoyer entre la diplomatie soviétique de l'époque, les intérêts diplomatiques de l'Union soviétique et la logique quand même. Ils avaient, eux, fait l'expérience d'un compromis en 1927, ils avaient payé cher le prix. Donc l'idée, c'est une idée de survie. On ne recommence pas, à s'offrir finalement à un véritable massacre. Et du coup, il y a une logique propre qui est en partie militaire, qui n'a pas forcément un projet social mirobolant, mais qui fait que la révolution chinoise ne passe pas à la trappe. Bon, et puis c'est la Chine, il y a aussi un effet d'échelle hein, là-dedans. Donc, alors le problème, c'est que du côté des révolutionnaires, pour rester au niveau européen et un peu plus largement, ils ont vécu la guerre, je crois, hein, peut-être on projette après coup, dans l'attente, justement, d'un scénario aussi turbulent que les années 18-23 au sortir de la guerre. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe. Et le gros problème qui va... Alors, il y a des organisations qui disparaissent purement et simplement. Le POUM disparaît. L'ILP britannique, qui n'était pas une petite organisation, qui était un travaillisme de gauche quasi-révolutionnaire, de gens comme Orwell et d'autres à l'époque, disparaît. Et puis, le courant trotskiste survit et éclate, d'abord sur l'interprétation, justement. Certains pensent que la remise en route d'une économie capitaliste, c'est un épisode, mais que c'est un intermède et que, en fait, la guerre n'est pas finie. On va à court terme vers une nouvelle guerre mondiale et éventuellement une guerre mondiale directement entre l'Union soviétique et les États-Unis. D'autres pensent que c'est un rétablissement durable et que donc il faut se préparer à une traversée du désert. Mais toutes les fractures entre tel et tel courant ou l'apparition d'un groupe comme Socialisme ou Barbarie, qui à l'époque est anodin. Aujourd'hui, a posteriori, on pense que des gens comme Castoriadis, comme Lyotard, etc., ont apporté quelque chose, et c'est juste. Mais l'interrogation qui finalement traversait tout le monde, c'était de comprendre pourquoi est la possibilité de la survie du régime bureaucratique en URSS. C'est ce qui finalement fait la différence entre David Rousset, entre Castoriadis, entre d'autres courants de l'international qui continuent sur l'idée c'est un État ouvrier dégénéré, mais pourquoi la dégénérescence dure aussi longtemps, pourquoi elle peut même s'étendre à des régimes comme ceux d'Europe de l'Est. Et puis, c'est des défaites, parce que d'une certaine manière, cette consolidation du camp, au deux sens du terme d'ailleurs, du camp stalinien, a aussi des répercussions aussi lointaines que en Asie, en Indonésie, aux Philippines ou au Vietnam. 45, c'est aussi la liquidation de l'opposition de gauche vietnamienne, qui n'était pas un groupuscule, mais d'un parti communiste vietnamien qui, lui non plus, pour autant, ne rentre pas dans le rang et continue sa résistance nationale. Des communistes. Alors ça, c'est aussi un effet, c'est qu'il y avait toute une légitimité de l'histoire du mouvement communiste de la Troisième Internationale qui était portée par des personnages qu'on connaît peu. Le fondateur du Parti communiste grec, Poliopoulos, était devenu oppositionnel de gauche, a été fusillé par les Allemands. Un des fondateurs du communisme indonésien, Tan Malaka, qui avait animé des guérillas indonésiennes, bon, a été liquidé également à ce moment-là. Donc il y a toute une génération, finalement, qui pouvait disputer la légitimité de l'héritage de la révolution russe, qui, passe sous le rouleau compresseur. Et c'est vrai aussi en Europe de l'Est, ou en Tchécoslovaquie. Il y avait aussi bien sur le plan culturel un mouvement surréaliste qu'une opposition de gauche. Bon, et tout ça a été finalement laminé par le rouleau compresseur, ce qui fait que les hypothèses sur lesquelles s'étaient constituées les oppositions de gauche dans les années 30, bon, ont été démenties. Alors là aussi, mais est-ce que c'était fatal? Est-ce que c'était une erreur de pronostic? Bon, moi je crois que c'est pas des problèmes. Enfin, la politique fonctionne pas au pronostic. C'est pas des paris comme ça, ce que les linguistes appelleraient plutôt du performatif, c'est-à-dire que on dit ce qui serait souhaitable ou nécessaire, on essaie de faire en sorte que ça devienne réel et possible. Bon, après, comme l'histoire n'est pas écrite d'avance, on voit ce qui se passe. Bon, et finalement, le redémarrage économique a permis après. Mais le problème, on dit les États-providence, bon, ou l'État social, enfin, les formes de régulation keynésienne sur lesquelles a reposé le compromis social, principalement en Europe, mais sous d'autres formes également dans d'autres régions du monde. C'est pas la même chose, mais les États populistes latino-américains, la croissance du Brésil dans les années 50-60, relèvent de mécanismes redistributifs, en tout cas, en partie comparables, ou les théories de la CEPAL sur le développement pour l'Amérique latine. Bon. Ça a été possible, d'abord rendu possible parce qu'il y a eu relance, effectivement, et croissance économique. Mais c'est aussi que la croissance économique a été payée par... Enfin, c'est la grande peur de la bourgeoisie. Ce n'est pas uniquement un cadeau ou parce qu'il y a eu une idée géniale de Keynes, etc. C'est qu'ils ont eu peur de tout perdre dans les années 30 et dans la guerre et au sortir de la guerre. Et que le compromis était une manière, justement, de céder quelque chose pour ne pas tout perdre. Mais sur cette base-là, c'est quelque chose, c'est un compromis qui a plus ou moins permis d'amortir la conflictualité sociale sur une trentaine d'années jusqu'à la fin des années 60 ou au milieu des années 70 et qui a donné l'illusion. Alors ça aussi, ça a été l'illusion, d'une part, que le capitalisme avait trouvé le moyen de maîtriser ses contradictions et de les gérer rationnellement, et puis aussi des théories comme celle de David Rousset, comme quoi, par des voies différentes, le capitalisme occidental et la modernisation, même sous des formes bureaucratiques en Union soviétique, arriveraient à des formes convergentes, plus ou moins, d'une même société. C'est la conclusion de son grand livre que personne n'a lu, qui s'appelle « La société éclatée », qui est pourtant un des livres les meilleurs sur l'Union soviétique. Mais qui termine un petit peu par cette hypothèse d'une convergence des deux grands. Il faut dire que ce n'était pas le seul, hein, à l'époque, quand c'était quand même l'époque coexistence pacifique où Mauroy et Aragon écrivaient les histoires parallèles des États-Unis et de l'Union soviétique, hein, que le Parti communiste nous vendait en promotion, par abonnement, cartonné. Tout bon militant communiste au début des années 60, même s'il n'avait que 4 bouquins, il y avait dans la bibliothèque Mauroy Aragon, histoire parallèle de l'Union soviétique et des États-Unis. C'est tout un symbole.
Dali tá muito difícil, mas a solução que é imigrar para sofrer na sola banca de mar, depois de grito comandante, e se vou chegar na terra é para louvar no Senhor dos Cristo. E já moia, uma vida ali tá muito difícil, mas a solução que é imigrar para sofrer na sola banca de mar, depois de grito comandante, e se vou chegar na terra é para louvar no Senhor Jesus Cristo. Arranjo-me trabalho, não querer ficar, me encamece de passaporte e os documentos é inchado a martelo, amanhã os dois bros que os pijam para mãe, filhos que está criado na ninho sem pai. E os documentos é inchado a martelo, manhãs dos bros, quem os pincham pambai, fiz que até criar maninho sem pai. Tratão, tinhas papelada, manhã coração, já flagmanã, caminho de pai, mas também cá poder, cali de riba barbós, sempre te espiar trabalho, com broco de casa que é para morar. Minha pai escreveu, pamba tratão, tinhas papelada, manhã coração, já flagmanã, caminho de pai, mas também riba barbós, sempre te espiar trabalho, com broco de casa que é para morar. Arranja o trabalho que é para ganhar aquele pão de cada dia. Pouco lhe dente de gel, fortuna lá fora e fantasia. Quem os pinjam, pambai, fiz que te criar, naninho sem pai. Pouco lhe dente de gel, fortuna lá fora e fantasia. Te criar naninho sem pai, arranjando trabalho que é para me ganhar aquele pão de cada dia. Porque dentro de teu fortuna lá fora é fantasia. Que os pinchar pambai, fiz que te criar naninho sem pai. Porque dentro de teu fortuna lá fora é fantasia. Que os pinchar pambai, fiz que te criar naninho sem pai.
Toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, les oreilles loin du front, et donc c'était Mayra Andrade. Et on poursuit notre tour dans le XXe siècle à travers 13 dates commentées par Daniel Ben Saïd. Et donc, cinquième épisode, on arrive au 1er novembre 1954, la Toussaint Rouge, c'est-à-dire le déclenchement de la guerre d'Algérie.
Novembre 1954. Alors le 1er novembre 1954 en Algérie, une trentaine d'attentats ont lieu en divers endroits du territoire. Ce sera ce qu'on appelle la Toussaint Rouge. Cette insurrection apparaît comme une étape décisive dans le déclenchement de la guerre d'indépendance algérienne, d'abord par son ampleur, mais aussi parce qu'elle marque l'apparition sur la scène politique et militaire de son principal acteur, le FLN. Alors la guerre d'Algérie et plus largement les guerres d'indépendance nationale bouleversent le mouvement ouvrier en France et dans le monde. De nouveaux clivages apparaissent, en particulier autour de l'attitude à adopter vis-à-vis de ces mouvements. Alors, mais on voudrait voir un petit peu quelle vision tu as de la guerre d'Algérie et plus largement essayer d'interroger quels sont historiquement les rapports de la gauche et des questions coloniales.
Bon, alors là, c'est un peu directement notre histoire, je dis au niveau. Puisque, bon, on peut dire en tout cas pour ma génération, j'aime pas trop ces histoires de génération, c'est toujours un peu gluant, mais enfin bon, c'est un repère chronologique. On est en partie le produit quand même, direct ou indirect, de cette guerre d'Algérie. Alors, c'est autour de la guerre de libération algérienne se cristallisent deux types de problèmes. Le premier, c'est justement l'attitude du mouvement ouvrier des pays, des métropoles coloniales, face ou vis-à-vis des guerres de libération et des mouvements anticolonialistes. C'est une histoire, là aussi, assez tumultueuse, et dans laquelle on retrouve les grands clivages, finalement. C'est-à-dire que il y a eu un anticolonialisme, disons, réellement internationaliste, un véritable élan de ce point de vue-là des premières années de l'internationale communiste, avec les congrès de Bakou par rapport au peuple d'Orient, avec une attitude du jeune parti communiste français jusqu'à la guerre du Rif, antimilitariste, de sabotage finalement de l'opération coloniale et y compris de travail dans ce sens au sein de l'armée comme armée coloniale. Et puis cette tradition finalement là aussi a été sacrifiée petit à petit aux jeux diplomatiques et aux intérêts d'État sur la scène internationale. Au nom notamment des alliances politiques et en particulier des alliances politiques passées en 1945, au nom de la reconstruction nationale, des gouvernements d'unité nationale, etc. Ce qui s'est traduit par là une évolution nationale, en partie chauvine, du Parti communiste français. Je dis en partie parce que l'affaire est un peu plus contradictoire, mais sur le fond, il n'y a quand même pas photo, comme on dit. Que ce soit sur la question vietnamienne ou sur la question algérienne, on ne peut pas dire qu'il y ait eu un soutien actif à la lutte de libération algérienne à partir de 1954. Alors, avec parfois des alibis théoriques, est-ce que l'Algérie est une nation ? C'est une nation en formation, mais donc est-ce qu'on peut parler de droits nationaux ? Avec tout un discours sur le droit au divorce ou l'obligation de divorce. On a le droit au divorce, mais on n'est pas obligé de divorcer. Donc, en tout cas, de ne pas faire du droit à l'indépendance une question de principe, hein, à ce moment-là.
il en est résulté quand même une ligne qui, au maximum, ça a été un des points d'ailleurs qui nous, sur lequel, à l'époque, de manière pas tout à fait consciente, mais on entrait en malaise, et pour certains d'ailleurs camarades, en opposition avec la ligne du parti. Il faut dire que beaucoup de militants qu'on va retrouver en 68 ou exclus du parti par la suite, à l'époque, faut rappeler, le Parti communiste en France faisait 25% de l'électorat, bon, rien de comparable à aujourd'hui. Donc c'était quand même, pour quelqu'un qui se radicalisait en politique, c'était un engagement, je ne dis pas inévitable, mais largement naturel. Or, le Parti communiste a... Moi, j'ai fait les dernières manifestations sur la guerre d'Algérie, mais c'était plus un mot d'ordre de paix. Donc, le mot d'ordre central, d'ailleurs, c'était paix en Algérie, mais c'était pas explicitement un mot d'ordre de soutien actif au FLN et aux Algériens. Ce soutien, il est beaucoup plus venu des milieux intellectuels avec l'appel des 100, qui n'était pas uniquement un appel pétitionnaire d'intellectuels, mais qui était quand même une sorte d'engagement moral à un soutien actif, c'est-à-dire à l'hébergement des militants algériens clandestins, à une certaine aide au FLN. Donc, finalement, le déclenchement de la guerre de libération algérienne venant en 1954, exactement au moment où se soldait la défaite de l'impérialisme français en Indochine, c'était la mise à l'épreuve, finalement, des positions face à un mouvement général des luttes de libération nationale dans le Maghreb, en Indochine, mais également dans les colonies africaines, portugaises, françaises dans une moindre mesure, à ce moment-là. Bon, ça, c'est le premier problème donc, dont la conséquence, c'est la division par rapport au type d'engagement, c'est-à-dire de solidarité avec l'ensemble du mouvement anticolonialiste et anti-impérialiste, et d'une solidarité active, non pas d'une solidarité tolérante au nom de la paix. Bon. Alors, il faut nuancer quand même, parce que la ligne du Parti communiste avait des traductions parfois compliquées, hein, par exemple, l'objection de conscience, le refus d'aller en Algérie, et certains militants communistes ont été emprisonnés. Alban Liechti, moi, quand j'adhérais à la JC, on faisait la campagne pour la libération d'Alban Liechti, qui était emprisonné pour avoir refusé de porter les armes contre le FLN. Il y a eu très peu de cas de désertion, c'est-à-dire de passage au FLN. Il y en a quelques-uns connus, mais le problème portait principalement là-dessus. Ça, c'est un premier problème. L'autre problème, c'était ce qu'on pouvait attendre de la révolution algérienne elle-même. Est-ce que c'était une guerre de libération pour l'indépendance nationale, point, ou est-ce que sa dynamique allait beaucoup plus loin dans le sens d'une expérience socialiste, etc. Et le contexte là est important. Alors d'abord, le débat, je ne reprendrai pas ici, il y a eu un débat qui soutenir le FLN, qui était d'une certaine manière plus radical, ceux qui ont pris l'initiative de l'insurrection, ou le MNA, qui historiquement, le MNA de Messali Hadj, qui était historiquement plus lié à une culture de mouvement ouvrier, et qui, au début, en 1954, n'était pas une organisation légaliste. Il y avait des divergences sur comment, etc., quel type de lutte armée, mais pas sur le principe. Et le MNA se préparait, lui aussi, à mener des luttes militaires. Bon. Après coup, je crois que c'est des questions qu'on peut discuter sereinement, parce que le MNA s'est transformé en partie en instrument du colonialisme français, mais ce n'était pas le cas au tout début de la guerre. À partir de 1958, ça l'est devenu, où ils ont, dans leur rivalité avec le FLN, ont pactisé parfois des degrés divers avec l'autorité coloniale. Bon, mais l'autre problème, c'était quel programme pour le FLN ? Est-ce que c'était un programme nationaliste, voire confessionnel ? Il n'était pas du tout acquis au départ que la référence officielle de la future Algérie indépendante serait, par exemple, une constitution faisant référence à l'islam comme religion officielle. Ça l'est devenu dans le cours, en partie d'ailleurs, du fait de la manière dont l'OAS a, pratiquement par la série d'attentats à la veille de l'indépendance, fait que pratiquement il devenait difficilement imaginable de rester. Il y avait 1 million de... Enfin, ce qu'on a appelé pieds noirs, mais bon, qui ne sont pas tous des colons. Hein. Il y avait un petit peuple, je suis bien placé pour le savoir, d'origine espagnole ou de petits juifs pauvres, etc. Bon, mais la ligne de l'OS a créé une situation irréversible et a favorisé finalement la définition de l'État avec une référence fortement religieuse. Et puis le programme social du FLN n'était pas joué d'avance. Il y a eu le congrès de la SUMAM qui annonçait un programme relativement radical en matière de réforme agraire, etc., notamment autour de la figure d'Aban Ramdan, qui a été simplement liquidé là, dans la crise interne du FLN par ce qu'on appelait les Bentobal, enfin les 3B, je ne me rappelle plus les 3B en question, mais qui est un règlement de compte bureaucratique dans l'appareil du FLN, mais qui a un sens politique, qui liquide l'aile la plus sociale du FLN, qui avait une logique, on ne va pas employer les grands mots de révolution permanente, mais l'impact de la révolution algérienne, l'indépendance formellement, c'est 62, donc c'est exactement un écho pour nous avec la dynamique de la révolution cubaine, avec la radicalisation de la révolution cubaine. Donc on se dit, bon, il y a un scénario algérien qui prend la même voie à ce moment-là. Et alors, est-ce que c'était possible? Il faut quand même rappeler que la guerre d'Algérie côté algérien, je ne sais pas si on prend la mesure, on parle aujourd'hui de quelque chose, peut-être que le chiffre est exagérément arrondi, mais quelque chose comme 1 million de morts sur 10 millions d'habitants. C'est énorme, c'est pas une peccadille. Hein. Donc une société qui a subi ça est déjà fortement traumatisée. Et en plus, les Français avaient gagné la guerre militaire. Ils l'ont perdu politiquement. Mais justement, ils avaient infligé de telles pertes, etc. Donc l'appareil d'État algérien n'est pas surgi d'une expérience d'auto-organisation de résistance interne, mais notamment est venu de l'exil, bon, des gens qui étaient en prison comme Ben Bella, mais aussi de l'appareil militaire construit à la frontière autour de Boumédienne, ce qu'on a appelé l'armée des frontières, qui arrive, c'est un peu comme, en moins grave, enfin, en plus modeste que ce qui se passe sur la Palestine, c'est-à-dire un appareil extérieur, financé de l'extérieur, et qui vient coiffer finalement un processus révolutionnaire qui a subi pas mal de dégâts sur le terrain. Donc on a un appareil d'État bureaucratique. Ça n'a pas empêché que dans un premier temps, Ben Bella ait pris des mesures, enfin le fameux discours sur l'autogestion, des mesures radicales qui ont existé, etc., mais en s'appuyant sur une tête d'épingle. Et finalement, avec l'ambiguïté du coup d'État de 65, moi j'ai vécu ça, on était en stage de l'UNEF à l'époque, on a passé la nuit collé au transistor, on ne comprenait pas bien ce qu'était Ben Bella, hein. On était à la JC, on dit, bon, ça a l'air d'aller dans le bon sens, comme Cuba et tout, mais enfin, c'est quand même pas des communistes pur sucre, donc on ne sait pas très bien ce qu'ils vont faire, mais on a quand même intuitivement senti le renversement de Ben Bella comme un sale coup, quoi. Et en même temps, c'est pas non plus apparu clairement comme une inversion du processus, puisqu'une bonne partie des nationalisations des hydrocarbures, etc., ont été poursuivies ou carrément faites sous Boumédienne. Donc ça n'est pas apparu comme un coup d'arrêt brutal, mais comme une continuité. Alors tout ça est évidemment une des composantes majeures. Il faut savoir aujourd'hui, peut-être on l'oublie, mais que la guerre d'indépendance algérienne, par exemple pour les mouvements de lutte armée en Amérique latine dans les années 60 et 70, était une référence presque aussi forte que l'expérience cubaine ou l'expérience vietnamienne. Quand j'étais en 73 en Argentine, j'ai passé des nuits entières à discuter avec les camarades qui disaient « mais on veut faire une guerre de libération en Argentine comme en Algérie », avec l'idée qu'en Algérie, ils avaient gagné militairement. Ils disaient « non, c'est plus compliqué que ça ». Mais l'Algérie était une référence, faisait partie de cet ensemble d'expériences de la révolution coloniale. Il ne faut pas oublier quand même qu'un des textes fondateurs pour nous, qui était le discours d'Alger, du Che, était un discours d'Alger, de son passage en 65 en Algérie, où il prend position le plus explicitement possible à l'époque
par rapport au jeu et aux rapports de force internationaux, à la politique de l'URSS vis-à-vis justement des guerres de libération nationale dans les pays coloniaux, etc.
ونرسى المقابلة ربحو لسماك الزرق ديما
باب جديد زوج عيون ملك انطيلة برميلة بوفريزي قاع السور نسيت الدهية القديمة باجا بدا مدحول ورسمك عنده قيمة غادي نبعث لك مرسول واجبيني يا عسيمة في رمضان على سحور في سسطارة تلاقينا هادي مدة وشهور وعلى بالي تخميمة والأصل فك مشكور انت بخيرك تكفينا وطلع عليك النور ما سد مثلك في مدينة سابني مع فرمنان نقار نقول زينة وليلي يكون في عين وصباح نقول مبدينا بهجة بدا ما تحول ورسمك عنده قيمة راني نبعد لك مرسول واجبيني يا عاسمة جناين برمان حتى الحارة شمدينا فينهم ذاك الجيران الحومة بقات حزينة واد القريش واد الزبال
ترقانا عنها خصيمة ميمون حمام الواد
في البيع ما دلينا بهجة بدا ما تحول ورسمك عنده قيمة راني نبعد لك مرسول واجبيني يا عاسمة
فيك قدر والديان وين اسما فيك نعيمة ورد ياسمين وسيسان هادي دنيا مزينة هادرو عليك في اليمن جزائر راكي زينة فاتت مصر والشم ما نختك حتى بليلة سهل لي يا رحمن بردك انت تعافينا نبداها بربع الكان باش هذا ما تنسينا
نخدم قريب كوان سفات على نبينا لا يجمعنا بحسن قولي ما توب رحيمة ورسمك عنده قيمة راني نبعث لك مرسول واجبيني يا عاسمة بهجة بدا مدحول ورسمك عنده قيمة راني نبعث لك مرسول واجبيني يا عاسمة
Yeah, Voilà, toujours sur fréquence Paris Pluriel 106.3, les oreilles loin du front, c'était Origine contrôlée. On poursuit notre tour du XXe siècle avec Daniel Ben Saïd et donc notre sixième épisode maintenant, autour du 1er janvier 1959, c'est-à-dire la chute de la dictature de Batista à Cuba, la révolution cubaine.
Alors, le 1er janvier 1959, est marqué par l'entrée dans la Havane de la guérilla menée par Fidel Castro et la chute de la dictature de Fulgencio Batista. Donc ça marque en fait le début, enfin symbolique et en même temps réel, des luttes et des résistances à l'impérialisme en Amérique latine. Et ça prend aussi une influence, enfin ces luttes vont à partir des années 60, mêler anti-impérialisme, autonomie paysanne et un marxisme refondu, mêlé enfin un rapport ambigu à la religion, c'est ce que je perçois de la place de la religion dans ce mouvement d'émancipation, de lutte anti-impérialiste. Et donc, comment peut-on évoluer un peu l'importance de la révolution cubaine, du guévarisme, et son influence sur les mouvements anti-impérialistes, à la fois sur le continent latino-américain, mais comme on l'évoquait tout à l'heure avec l'Algérie, éventuellement sur d'autres continents.
Je crois que la première chose qu'il faut dire pour mesurer la portée de la révolution cubaine, c'est qu'à la différence de ce qui s'est passé en Algérie, en moins de 3 ans, entre 59, le 1er janvier, date hautement symbolique d'entrée de l'armée rebelle à la Havane, et la proclamation de Cuba socialiste, il s'est passé à peine 3 ans. Par conséquent, pour nous, c'était la première révolution socialiste, donc, qui assumait ce type de projet politique qui n'avait pas été fait par un parti communiste et, dans une certaine mesure, avait été fait contre le parti communiste existant à Cuba. Partiellement contre, hein, parce qu'il s'y est rallié dans le tout dernier épisode. Alors, ça, c'est un choc. Pareil, aujourd'hui, on ne mesure pas, mais enfin, qui posait un problème majeur à tous les militants parti communiste. Qu'est-ce que c'est que cet oiseau rare? Qu'est-ce que c'est que ce mouvement du 26 juillet? Il était entouré d'un certain mystère. Moi, je me rappelle avoir lu des vieux journaux des années 50. C'était une question folklorique. Il y a des barbus qui prétendent qu'ils vont prendre le pouvoir. Enfin, en 58, et il y avait des reportages, hein, des journalistes américains. C'est une poignée de types. Il y avait toutes les composantes pour construire une mythologie christique. Ils ont débarqué à 80. Il y a eu 12 survivants, comme les apôtres. C'est une histoire formidable. Bon. Et puis, le scénario même de la révolution cubaine, l'armée rebelle, le Che ébouriffé à Santa Clara, etc. Bon, c'est la révolution romantique et épique. Donc, il y avait un problème de compréhension de ça, et en même temps, de dire, mais enfin, il y a une révolution possible qui n'est pas faite par un parti communiste. Premier gros problème, et par exemple... Là, pour nous, hein, sans rentrer dans l'anecdote, mais bon, on ne savait pas très bien de quoi y retourner. Bon, la figure du Che avait quelque chose. D'abord, en 59, on ne connaissait pas beaucoup. Après, déjà, 62, 63, commençait à être un symbole. Mais moi, une des expériences marquantes, c'est que oralement, j'ai entendu parler de la révolution cubaine par Armand Gatti quand il venait monter ses pièces à Toulouse. Et il venait de tourner L'autre Cristobal à Cuba, d'ailleurs, qui... Il y a des vieilles copies, mais on le voit rarement. C'est dommage, parce que c'est un film lyrique, justement, qui exprime bien l'esprit de l'époque. Et Gatti n'était pas membre du parti, le moins qu'on puisse dire. C'était une espèce de melting pot de culture libertaire, communisante, maoïsante, etc., etc., un peu tout. Donc c'était une bouffée d'oxygène considérable. Bien. Deuxièmement, très vite, il est apparu que non seulement... c'était pas une révolution conduite par un parti communiste orthodoxe, mais qu'elle entretenait des rapports
délicat avec la mère patrie du socialisme qui était l'Union soviétique. Il y avait des discours élogieux. Le Tché avait fait un voyage dans les pays de l'Est, était revenu fasciné par les performances de la planification, etc. Je crois qu'il y avait de la sincérité, mais en même temps, dès 1962, la crise des fusées, bon, on sentait que, et puis ça n'a fait que se développer par la suite. C'est clair dans les discours. Les discours du Tché sont mis en accusation, et en grande partie, ils répercutaient parce qu'il avait plus de liberté de parole et moins d'obligations diplomatiques que Castro à l'époque. Donc, que ce soit le discours d'Alger ou le message à la tricontinentale en 1965 et 1967, sont une mise en accusation de la politique internationale de l'Union soviétique, aussi bien sur les formes de coopération avec les pays ex-coloniaux dans le discours d'Alger que sur le type de solidarité accordée à la révolution vietnamienne et indochinoise. Bon, tout ça nous ouvrait, nous, un espace d'indépendance par rapport et au communisme orthodoxe, entre guillemets, soviétique et au réseau de partis communistes qui allaient avec, mais aussi par rapport au discours maoïste qui avait à l'époque, avec les illusions sur la révolution culturelle à partir de 1964, avait une influence considérable. Donc c'était un point d'appui de dire « il y a autre chose de possible » et avec un autre type de discours. Hein, les textes du Tché, là encore, sur le socialisme et l'homme à Cuba, qu'une camarade avait ramené, traduit en 1964 de Cuba et tout, c'était quelque chose de nouveau... d'ouvert, bon, qui crée ça. Alors, rapport au marxisme là-dedans, ça a toujours été énigmatique. Il semble que Castro ait connu Marx assez tôt, bien que sa formation, enfin, il y a des textes là-dessus, des témoignages, après le Bogota, il était témoin du coup d'État en Colombie, qui est le point de départ de tout ce qu'on connaît de la Colombie actuelle, des 52. Sa formation, en partie, ça peut paraître bizarre, ou alors, au contraire, éclairer certaines choses, c'est la Révolution française et le jacobinisme. C'est d'abord un admirateur de Robespierre et de Saint-Just. Ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas Marx. Alors là, on ne sait pas la part des choses entre... ou la part d'ignorance, une culture qui est différente, qui est un mélange de bolivarisme, de José Martí, donc de tradition nationale latino-américaine, de révolution française. On sait que la révolution française, lire le roman d'Alejo Carpentier sur le siècle des Lumières, bon, c'est une référence, et encore aujourd'hui d'ailleurs en Amérique latine, plus qu'ici, bon, d'une certaine manière. Et puis une certaine dose de marxisme, mais dont il n'a pas fait étalage, éventuellement pour des raisons de discrétion, comme disaient certains de ses compagnons, sur certaines questions, c'est un grand laconique. Il est très bavard dans les discours et très discret sur d'autres choses. Bon. La composante religieuse, là, je dirais, je pense que dans ta question, il y a une part d'anachronisme. Je ne dis pas que ça n'existait pas à l'époque. Il y a une religiosité profonde, mais par exemple à Cuba, c'est un syncrétisme de vaudou... Alors, ça imprègne une culture populaire, mais on est quand même à une époque où la tendance dans les révolutions, y compris les révolutions coloniales, la tendance dominante est plutôt une tendance à la sécularisation. Et c'est vrai dans les mouvements nationaux arabes, c'est vrai en Afrique chez des gens comme Amilcar Cabral, etc. Et c'est vrai à Cuba. Alors, sur la religion, ils ont toujours pris une position discrète, c'est-à-dire que les pratiques religieuses demeurent. Mais à l'époque, on ne parlait pas de quelque chose d'équivalent à la théologie de la libération, c'est-à-dire d'un véritable courant social et politique d'engagement qui se réfère directement à une inspiration religieuse. De manière diffuse, ça a toujours existé. Et d'ailleurs, dès l'héritage du... Alors, parce qu'après, il y a la répercussion de la révolution cubaine. Et là, elle rencontre inévitablement des courants. Camilo Torres, qui est était un des fondateurs des guérillas colombiennes, était un prêtre. Mais ce n'est pas le cas unique. Hein. Il y en a eu bien d'autres. Un peu plus tard, Ernesto Cardenal, dans le cas du Nicaragua, etc. Donc il y a cette composante-là. Maintenant, le problème de la révolution cubaine, c'est ses répercussions aussi. Là, répercussions en termes internationaux, c'est très important pour aujourd'hui pour l'Amérique latine, par exemple. Ça me fait toujours, on est critique par rapport à Cuba, sur certaines questions démocratiques à juste titre, après les procès de 89 et l'exécution de Ochoa, ancien proconsul cubain en Angola. À l'issue d'un procès, j'ai lu les minutes, ils les ont publiées, c'est un procès stalinien, il n'y a pas photo, hein. Bon, on est allé porter avec Gilles Perrault une pétition à l'ambassade de Cuba, hein. Mais en même temps, le fait que souvent la presse ici présente Cuba comme une espèce de Roumanie tropicale, là on est à côté de la plaque aussi, hein. C'est que je crois qu'il y a une bataille démocratique à Cuba, mais en même temps la légitimité de Cuba en Amérique latine aujourd'hui n'a rien à voir avec... enfin, d'abord, je doute que Ceausescu ait jamais inspiré quiconque dans la gauche révolutionnaire européenne. Mais ce n'est pas le cas de Cuba même aujourd'hui. L'idée, même après la chute de l'URSS, malgré le blocus, ils ont continué à tenir tête à l'impérialisme, etc. En même temps, la gauche latino-américaine aujourd'hui n'est pas suiviste à critique sur Cuba. Il y a un prestige, mais en même temps, il y a un regard qui est distancié. Les gens comprennent bien qu'une société comme le Brésil est beaucoup plus complexe que Cuba et que ce que racontent les Cubains ne permet pas de résoudre la question syndicale au Brésil. Bon, donc, mais... ça fait partie encore du mouvement et de l'histoire. Et a fortiori aujourd'hui, si ce qui reste de braise de la révolution cubaine est ranimé par ce qui se passe au Venezuela ou en Bolivie, le processus n'est pas achevé. Est pas achevé. Alors, en revanche, il s'est construit, et les castristes eux-mêmes ont construit sur la révolution cubaine une mythologie, relayée par exemple ici par le bouquin en 65-66 de Régis Debray, « Révolution dans la révolution », qui est une lecture très particulière de la révolution cubaine, qui systématise une théorie de la révolution qui part d'un foyer de guérilla, et puis on a l'impression que le foyer se transforme en armée rebelle, et l'armée rebelle conquiert le pays. Bon, ça, c'est en partie vrai, c'est aussi une légende de la révolution cubaine, qui avait un enjeu, à mon avis, qui était de construire la légitimité du mouvement du 26 juillet en relativisant tout le reste, y compris... la tradition du mouvement urbain à Cuba, du Parti communiste, etc. etc. Donc c'est le monopole de la légitimité, c'est le 26 juillet, même si après il y a eu un Parti communiste unifié. Mais les leçons qui en ont été tirées du coup ont fait des dégâts considérables en Amérique latine. C'est-à-dire que l'idée qu'il suffisait que la volonté... Il y a une culture de l'exemplarité qu'on trouve et sur le terrain militaire et sur le terrain économique. Quand on voit les photos du Che torse nu, charrier les sacs de trucs, bon, l'économie est dans le marasme, mais si on retrousse les manches, ça peut marcher. Bon, et ça a donné, en 67-68, la catastrophe de la Zafra des 10 millions, où Cuba disait, mais puisqu'on est étranglé économiquement, on va battre tous les records de production de canne à sucre, en se spécialisant en plus dans la monoproduction, qui est un signe de dépendance économique et agricole. Bon, mais l'idée, c'était qu'avec la volonté, on peut tout résoudre. Hein, vous avez le symétrique en Chine avec la fameuse texte sur Yukong déplaça les montagnes, bon, qui est une vieille légende chinoise recyclée par la rhétorique maoïste. Mais il y avait cette idée-là. Et en Amérique latine, c'est pareil. Si les conditions existent, ce qui manque, c'est la volonté. Et donc, et ça a été quand même une hécatombe. La décennie des années 60, début des années 70, on peut faire le martyrologue, Yon Sosa au Guatemala... Camilo Torres, De La Fuente et Lobaton au Pérou, les frères Peredo et Le Che lui-même en Bolivie, c'est une hécatombe d'une génération. Hein. Et un peu plus tard, en Argentine, en Uruguay, les Tupas, etc. Bon, enfin, ça mérite le respect par ailleurs. Hein. C'est des gens qui ont voulu bien faire. Bon, on peut discuter après coup cette histoire-là. En même temps, il faut aussi équilibrer un peu et pas faire de cette épopée une épopée de strict illuminé. Si on regarde de loin, on a l'impression que l'escapade du Che en Bolivie était une escapade suicidaire et complètement irrationnelle, ce qu'elle n'était probablement pas. On peut dire qu'il y avait très peu de chances de réussir, mais quand on voit les films à la télé aujourd'hui qui vont sur les lieux, on dit « mais qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette espèce de désert dépeuplé, etc. ?» En fait, le projet, c'était une guérilla intercontinentale. Et ce n'était pas si fou que ça. C'était créer un foyer irradiant entre le nord de l'Argentine, la région de Tucumán, le Pérou, la Bolivie. Bon, dans un contexte des années 60 où peut-être, bah, c'est difficile d'estimer sur le moment, peut-être que la vague, justement, des luttes de libération nationale était en train de s'essouffler, mais ça, c'était difficile à mesurer sur le coup. En tout cas, sûrement qu'il y avait quelque chose qui clochait là-dedans. Mais, et puis l'illusion, quand même, peut-être ça n'aurait pas suffi à changer la face des choses, l'illusion qu'en Bolivie, pourrait compter sur le soutien du Parti communiste bolivien qui les a plantés. Il y a l'anecdote du Che, quand même, au début de l'année, je crois, 1er janvier 67, qui réunit son petit groupe de guérillas en disant, ben voilà, les conditions dans lesquelles ce projet a été conçu ne sont plus les mêmes, parce que le Parti communiste ne donnera pas l'aide qui était promise. Donc, ceux qui sont venus sur la base du projet initial sont libres, sans déshonneur, de repartir. Là, on peut dire qu'à ce moment-là, oui, le scénario de l'échec était à peu près écrit. Bon, alors l'influence de la révolution cubaine, bon, j'en ai déjà parlé, mais... J'insiste pour corriger, parce que un petit peu l'image aujourd'hui, en Amérique latine, peut-être au-delà, mais il y a l'image de la révolution cubaine des origines. Enfin, le Che reste peut-être avec un excès iconologique ou icono-religieux, mais en même temps, il y a quand même un noyau politique à ça. C'est que c'est un des symboles du XXe siècle. Qui, alors on peut le décrypter différemment, mais qui a échappé à la corruption, qui s'est extrait volontairement d'une logique de bureaucratisation. Son propre geste, finalement, a peut-être échoué, mais il porte aussi la symbolique d'une révolution permanente qui ne peut pas s'arrêter à Cuba, et qui, dès qu'il y a une opportunité, que ce soit au Congo... en Haïti, à Saint-Domingue, etc. La seule chance pour une île comme Cuba, c'est encore pire que l'URSS, c'est d'ouvrir des fenêtres. Donc ce n'est pas seulement un symbole comme ça, romantique, c'est aussi un contenu politique. Et aujourd'hui, je trouve qu'on psychologise beaucoup trop le Che. Il était suicidaire, il était ceci, cela. Il était même cruel, il a exécuté un type de ses propres mains. Ça, à la limite, je trouve que ça mérite plutôt du respect. C'est-à-dire qu'ils ont été infiltrés par un type qui était là pour assassiner ou Fidel ou le Che, plutôt que de commander à un bidas Durand d'aller faire une exécution. Bon, c'est une responsabilité. Un état de guerre civile qu'on peut imaginer et qui ne devait pas être simple à prendre, hein, si on regarde. Bon, alors, et cette histoire-là, au moins en Amérique latine, elle n'est pas terminée.
Tu me prends tout pour le sou. Toujours faudrait dire merci à genoux. Tu m'as eu, tu m'auras plus. C'est fini les colonies, fini le temps du mépris. Ça va changer un jour. L'habitant plante le maïs, c'est pour le gros marchand. Reste gros gens comme devant. Pas le droit de dire comment. Taureau du Honduras, c'est bon pour le Texas, pour les petits y'a que les os. La viande c'est pour les gros, c'est pour tous les bandits, ceux du même acabit. Diamant de Bocassa, ça c'est secret d'état. Faut pas poser de questions quand on est juste un pion. Le rhum jamaïcain dans le gosier londonien, le riz du Vietnam, demande à l'oncle Sam s'il l'a bien digéré. Tu me prends tout pour le sou. Toujours faudrait dire merci à genoux. Tu m'as eu, tu m'auras plus. C'est fini les colonies, fini le temps du mépris. Ça va changer un jour. Les perles de Jacmel, brillent au bout de la belle. Tous les rois, même les sots, ont leur joli bibelot. Le pire du Chili se retrouve à Paris. Le café du Uruguay se déguste à Broadway. Mais le fer de Managua perce le cœur des USA.
Mes frères coupent la canne et leur machette dessus, du matin jusqu'au soir, et du soir au matin en Dominicanie. Miami ou Paris, peu importe le pays, c'est à chez eux qu'ils rêvent. Un jour ils vont entrer quand l'abcès va crever. Tu me prends tout, tu me prends tout pour le sou. Toujours faudrait dire merci à genoux. Tu m'as eu, tu m'as eu, tu m'auras plus. C'est fini les colonies, fini le temps du mépris. Ça va changer un jour, ça va changer bientôt. Ça va changer un jour. Ça va changer un jour, ça va changer bientôt. Ça va changer un jour. Les perles de Jacmel brillent au bout de la pelle. Tous les rois, même les sots, ont leur joli bibelot. Le cri du Chili se retrouve à Paris, le café du Uruguay se déguste à Guadeloupe, mais le fer de Managua perce le cœur des USA. Mes frères groupent la canne et leur machette dessus, du matin jusqu'au soir, et du soir au matin en Dominicanie. Miami ou Paris, peu importe le pays, c'est à chez eux qu'ils rêvent. Un jour ils vont entrer quand l'abcès va crever. Tu me prends tout, tu me prends tout pour dessous. Toujours faudrait dire merci à genoux. Tu m'as eu, tu m'as eu, tu m'auras plus. C'est fini les colonies, fini le temps du mépris. Ça va changer un jour, ça va changer bientôt. Ça va changer un jour. Ça va changer un jour, ça va changer bientôt. Ça va changer un jour. Ça va changer un jour, ça va changer.
Toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, les oreilles loin du front, c'était Mano Charlemagne. On arrête donc pour aujourd'hui notre tour du XXe siècle avec Daniel Ben Saïd. Donc aujourd'hui, on est revenu sur le 8 mai 45, le 1er novembre 1954 et le 1er janvier 1959. On reprendra donc la suite du feuilleton du XXe siècle avec Daniel Ben Saïd la semaine prochaine et la semaine suivante. En attendant, on va se quitter en musique, je pense, avant de se dire carrément au revoir.
Thank you. On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Et voilà, l'émission Les Oreilles Loin du Front se termine. Ce soir, on était donc en compagnie d'un trio de choc, hein, équipe réduite, mais équipe féminine, ça nous change, n'est-ce pas Sophie ? Donc autour des micros et des boutons, on avait donc Sophie, Juliette
et Alexandrine.
Et voilà, nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour la suite de notre tour du XXe siècle autour de, avec Daniel Ben Saïd. Et puis, pour vous dire aussi que nous sommes rediffusés tous les vendredis de 12h30 à 14h. Donc si vous venez de vous brancher et que vous auriez bien voulu écouter l'émission, bah, rendez-vous vendredi à 12h30 sur cette antenne 106.3. Et là, tout de suite, on vous laisse dans les bras d'Écho du Capricorne.